Éphémère.
Flaubert Musique Radio.
La radio du lycée Flaubert à Rouen.
Flaubert Musique Radio.
Éphémère. À écouter sur zonedonde.org et 102.8 FM.
Le vendredi 19 avril de 10h
à 16h. Bonjour, bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio FMR du lycée Flaubert et il est actuellement midi 05. Donc vous êtes en présence de Kélia Makani aujourd'hui.
De Denis.
Nestaba.
Moi c'est l'esprit du village, Salam.
Donc un artiste.
Ouais, chanteur.
Chanteur, compositeur aussi, interprète bien sûr. Et quelqu'un de très spécial pour nous, élève, parce qu'il conduit une de nos lignes de bus qu'on prend tous les soirs. Donc ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes ici pour la session talk qui arrive à peu près toutes les émissions depuis la dernière. Et le sujet d'aujourd'hui est le mouvement panafricain. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite définition, Nestaba ?
Alors, le panafricanisme, c'est un mouvement politique et social qui vise à promouvoir la solidarité entre les peuples africains, ainsi que leur unité et leur autonomie. Donc le panafricanisme, il encourage la coopération économique, politique et culturelle entre les nations africaines. Donc l'objectif, c'est l'émancipation totale de l'Afrique et de sa diaspora.
Donc, c'est un mouvement où souvent les gens sont pas très exposés à ce mouvement, j'ai l'impression. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous en entendez beaucoup parler ? Est-ce que toi, Salam, t'en entends beaucoup parler ?
Oui, on est dedans, nous.
C'est vrai.
Tous les jours, on entend parler de ça.
Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Bah, moi, j'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était un truc un peu extrémiste, entre guillemets, jusqu'à que je vois la définition et que je comprenne vraiment ce que c'était, en fait.
C'est vrai qu'on a souvent des pensées... On s'imagine souvent que c'est très extrémiste, que les gens adhérents au mouvement panafricain ne veulent pas du tout avoir de lien avec l'Occident ou les autres pays en dehors de l'Afrique. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai, parce que toi, t'es plus dans ce mouvement-là, t'es vraiment impliqué dedans, t'es un peu à la racine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce mouvement, de ton point de vue ?
En fait, les gens, comme tu dis, quoi qu'on ait des extrémistes, mais en fait, non, c'est juste que l'Afrique, en fait, a beaucoup été exploitée et que les Africains se sont réveillés aujourd'hui. Ils veulent l'union. C'est pas parce qu'ils rejettent l'autre, mais c'est pour avoir l'union, avoir la force, en fait, de pouvoir s'occuper de leur propre terre, avoir ses origines et garder ses racines aussi, qu'on nous dénigre pas. Et qui fait que voilà, les gens qui sont conscients de ça, et voilà, ils veulent s'unir. C'est pas parce qu'on veut pas que les autres soient avec nous. Au contraire, chacun doit respecter ses origines, comme les Français, les Américains, les Chinois. Chacun a sa langue, chacun a ses origines, ses cultures. L'Afrique aussi a ses cultures, et qui fait que c'est pas parce que on veut être nous et que voilà, on veut nous dire on n'aime pas les autres. Rien à voir. Mais quand tu vas jusqu'au fond. Voilà, on est assez ouvert pour pouvoir discuter avec tout le monde. C'est juste qu'il faut garder les oreilles. C'est normal. Chacun, tu vois, il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir aller quelque part. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas aller nulle part. Tu seras toujours dans l'illusion de la vie. Maintenant, les Africains, la jeunesse, ils connaissent maintenant leurs valeurs. Pendant l'esclavage, il y avait plein de choses qu'on nous disait des choses. N'apprenez pas vos cultures, vos racines. On vous donne ça, il faut apprendre ça. Et aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est l'union fait la force, tout en respectant l'autre.
Oui, c'est vrai que pour avancer, il faut être unis, que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel autre continent. Voilà. Parce que quand on prend dans l'histoire d'autres continents qui sont aujourd'hui plus développés, par exemple, que l'Afrique, ou qui ont des situations plus avantageuses, c'est parce que les peuples de ces continents-là ont été unis avant tout. Ils ont trouvé des forces dans leurs racines. Je pense que c'est une vérité.
Tout à fait. Comme moi, aujourd'hui, je suis chanteur. Pourtant, je suis en France, mais je garde les racines. En fait, ma force, c'est donner la valeur de la langue africaine. C'est qu'il soit n'importe quelle langue africaine pour que les gens qui ne connaissent pas cette langue-là le découvrent dans ma musique, dans les sonorités qui sont... Voilà. Dans la musique, comme le choral, les balafons que les gens ne connaissent pas beaucoup.
On va en parler après des instruments.
Pour que les gens puissent découvrir, parce que c'est à nous de donner cette valeur-là. Si on est mieux placé pour le mettre en valeur. Alors, voilà, pour que tout le monde puisse découvrir cette, cette chose. C'est comme en musique, c'est ça. Et tout le reste, après, je chante en anglais, je chante en français. Mais la langue, elle est importante pour donner des cultures, les mélodies, les harmonies, pour faire partager le monde entier, quoi, avec les, la culture africaine.
Mais souvent, je trouve que le problème, c'est qu'on a cette vision des Africains qui ne peuvent pas se débrouiller seuls, qui ne peuvent pas avancer seuls.
C'est ça.
Et que tout le temps, on doit venir les aider.
C'est vrai. Voilà. Bah, ouais. On a vu ça aussi en français. À un moment, on avait des cours qui nous ont fait un peu parler de ce problème en Afrique, mais c'était vers le 18e siècle, 19e siècle. Mmh. Et on voyait que les Africains, souvent, étaient représentés comme des enfants qui avaient toujours besoin d'aide, des Occidentaux.
Tout le temps.
Qui ne pouvaient absolument rien faire.
Mais ça, c'est l'illusion. C'est comme aujourd'hui, tu vois, bah, pas mal de femmes africaines qui mettent des mèches à l'Occidental, qui on les a dit, il ne faut pas mettre vos cheveux, ça ne veut rien dire. C'est, ils sont dans l'illusion, en fait. Et aujourd'hui, ça commence à, les femmes africaines commencent à avoir leur authenticité. Garder, c'est pas pour ça que tu ne peux pas aller voir autre chose. Tu vois, mais tout en savoir, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir évoluer, pour tu sais où tu vas.
Donc en fait, dans une certaine mesure, c'est une volonté de vouloir se détacher de tout ce que les Occidentaux ont apporté, voilà. Mais pas pour montrer que voilà, on peut se débrouiller tout seul, mais parce qu'on est censé se débrouiller tout seul,
voilà.
Sans l'aide des Occidentaux.
Tout à fait. Tout à fait. Et sortir de l'aliénation. Parce qu'il y a beaucoup de choses, l'aliénation culturelle, beaucoup de choses que voilà. Que les gens ne voyaient pas. Maintenant, avec le net, en plus, il y a beaucoup de choses maintenant que les gens découvrent qu'ils étaient dans l'illusion des choses. Et ça permet aussi de développer beaucoup de... Et l'Afrique, c'est on dit, c'est berceau de l'humanité. Hein. Il y a plein de choses qui viennent là.
C'est vrai.
Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer. Et après, comme nous, les Africains qui sommes en Europe, les Européens aussi, comme je dis souvent, ils ont la chance aussi de nous avoir parce qu'on peut leur apprendre d'autres cultures sans voyager.
Oui.
Et on se partage. Nous, on est là, on respecte leur culture, leurs racines, leur
principe.
Voilà. Ouais. Tout ce qui a respecté, mais tout en gardant notre identité. Et c'est ce qui fait ce qui fait la richesse, en fait. La richesse culturelle de chacun, qu'il soit américain, qu'il soit chinois, qu'il soit africain. C'est bien de se mélanger. Et de s'apprendre, l'autre il va faire du riz, l'autre il va faire du poulet, l'autre il va faire exemple quoi. Et voilà, c'est un bon truc quoi. T'as et
puis c'est vrai qu'en plus, nous on a de la chance. Denis, toi t'as pas des origines africaines.
Pas du tout.
Mais on a la chance d'avoir cette double culture. On n'est pas français de sang, on n'est pas européen de sang, entre guillemets, de souche. Mais on a quand même cette culture française parce qu'on vit ici. On a grandi ici pour la plupart et on a quand même notre culture aussi qui nous vient de notre continent d'origine.
Ouais.
Et je trouve que c'est vraiment important parce qu'on peut prendre des deux, on peut prendre le meilleur des deux.
Le meilleur des deux.
Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir cette double culture. Je ne sais pas si vous voyez de la même façon que je vois. Denis, est-ce que tu penses que toi aussi, tu as cette chance ?
Je pense que oui, je côtoie les Français et je côtoie les Français de plusieurs cultures et par la même occasion, du coup, j'ai l'impression d'être un peu mélangé à eux. Et en fait, du coup, même si je n'ai pas de sang africain ou quoi, je connais quand même quelques cultures. J'ai déjà mangé, par exemple, des plats typiques de certains pays d'Afrique.
C'est important.
Ouais, et en fait, ça permet le mélange, ça permet la cohésion. En fait, ça permet même, en fait, dans une certaine mesure, une coopération en fait, entre plusieurs personnes d'origines différentes, donc ouais, voilà. J'irais ouais.
C'est ça, l'autre crème fraîche, l'autre il va manger du piment, là, des frites par-ci, des chouchous pour les Chinois, tu vois, c'est une richesse quoi. Et puis après, en partant sur d'autres choses, la culture qui soit dans la culture de tous les jours, qui soit dans les vêtements, dans plein de choses, c'est un partage en fait, c'est qui fait que c'est pour ça qu'on dit panafricaine, voilà, on est soudés pour pouvoir donner la chance aussi que les gens découvrent aussi notre valeur. Et c'est pour ça que moi, souvent, même dans mes vêtements, dans les trucs, je porte pas mal de choses qui sont africaines pour que les autres découvrent aussi qu'on a d'autres choses. Il n'y a pas que les Costa, il n'y a pas que le Nike, il n'y a pas que Adidas, il y a d'autres choses qui existent, qui sont bien aussi à porter, que l'autre découvre, pour le porter, le français, l'américain. Comme nous, les Africains, on porte des costards, on porte des jeans, on porte Adidas, Nike. Et l'autre aussi, pareil, il peut se rejoindre à nous, en fait, ce partage-là.
Ça permet d'ouvrir les yeux un peu pour, par exemple, des Européens qui ne verraient pas forcément de la manière dont, par exemple, les Africains ou même les Asiatiques vont s'habiller, bah là, vous permettez, en fait, voilà. par ce que vous portez. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup votre haut. Hein.
Voilà, merci. C'est le village, quoi. Comme j'ai dit, c'est l'esprit du village, quoi.
Mais faut pas aussi oublier que le mouvement panafricain, c'est aussi un mouvement politique.
Oui, surtout politique.
Il prend beaucoup place en Afrique, logiquement, mais
dans la diaspora, quand même, dans la diaspora africaine.
Dans la diaspora africaine également. Ouais. Et en fait, avant, il prenait plus place, enfin, c'est comment je le vois, en Afrique, sur le continent. Mais au vu des conditions et à chaque fois qu'il y a un politique panafricain, un président ou autre, qui essaye de s'imposer, il disparaît. Donc, ouais, j'ai l'impression que cette tendance panafricaine a plus disparu sur le continent et maintenant fait plus partie de la diaspora.
Mais en fait, le problème, c'est que quand il est dans la diaspora, bah, quand il va être présenté par les Occidentaux, ils vont être considérés comme extrémistes. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, moi, je voyais ça comme ça. Mmh. Alors que dans le point de vue africain, c'est pas du tout ça. Mmh. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique, elle pourrait être... indépendante d'un point de vue économique. Par exemple, on a l'exemple du franc CFA. Mmh. C'est, pour les panafricains, c'est du
néocolonialisme.
Voilà, mais là, ils sont en train de battre pour sortir des arts.
Oui, est-ce que vous pensez qu'un jour, en Afrique, on pourrait avoir, chaque pays pourrait avoir une monnaie?
Bien sûr, on est, voilà, l'Afrique est en train de se... L'Union africaine, comme il disait Tiken Diafakoli dans sa chanson, quand l'Afrique sera unie, le monde va être... Et là, on est en train de battre pour pouvoir sortir de ça, d'avoir notre propre monnaie, et avoir, parce que tous les autres, ils ont leur monnaie. Mmh. Il n'y a que les 14 pays africains qui gardent encore le CFA colonisé par la France, qui fait que ça ne veut rien dire. Mais tu ne peux même pas cet argent-là, CFA, le faire changer en France. Et pourtant, c'est les Français qui le font, à Strasbourg. Ouais, c'est là-bas, c'est ici que ça se fait le CFA en France. Mmh. Et tu peux même pas le prendre pour pouvoir échanger. Pourtant, le dollar, tous les autres, on peut le changer ici. Mmh. Mais CFA, tu ne peux pas le changer ici. C'est pour ça que les Africains, ils en veulent plus. Mmh. Et ils veulent leur propre. C'est pour ça que Kadhafi et tout ça, là, ils voulaient l'Union africaine.
Oui, c'est vrai.
Mais ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué pour l'Afrique de s'émanciper. Quand même les Africains qui ont du pouvoir ne cherchent pas à donner sa liberté, si je peux dire ça comme ça, à l'Afrique. S'il y a un problème en Afrique, pas qu'en Afrique, dans tous les pays du monde, je pense, mais dont on tait beaucoup le nom, il y a beaucoup de corruption et ce genre de problème. Et ça ne facilite pas du tout le mouvement panafricain.
En fait, c'est les dirigeants qui sont corrompus aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça commence à changer. Oui. Parce que la jeunesse, comme ça va être toi, ça peut être moi. Oui. Aujourd'hui, tu as vu le Sénégal, il y a un jeune président qui vient d'arriver, il n'a même pas 45 ans. Oui. Et voilà, ils sont là, ils sont... Tout ça là, tous ça les anciens là, voilà.
C'est lent, mais...
Voilà, il y avait Thomas Sankara de la Burkina Faso qui... il a été tué, il se battait pour ça.
Il était jeune en plus.
Voilà, il était 36 ans et il
Mais il était vraiment en avance époque. Pour son époque,
même sur la condition des femmes, il me semble, il était extrêmement en avance.
Voilà, il y avait lui, il y avait Kwame Nkrumah, il y avait Lumumba aussi qui se battait, il y avait pas mal de... Mais tout ça, les a éliminés pour pouvoir...
Mais est-ce que, du coup, à l'heure actuelle, ce ne serait pas une question aussi de peur pour les dirigeants africains qui... serait sous la pression, par exemple, d'occidentaux et la peur de mourir. Et c'est du coup, dans ce cas-là, ils vont juste se ranger dans leur case et juste faire leurs affaires dans leur pays.
Comme tu viens de dire, c'est ça. Ils ont peur, en fait, de pouvoir dire non. Et là-haut, ils ont peur de la mort. Et dès que tu dis, je suis président, je vais faire ça. Dès que tu es là-haut, il y a la réalité qui t'attend. Il faut avoir vraiment le courage. Voilà.
Je pense
le courage de dire non, en fait.
Je pense que ça dépend aussi des dirigeants. Parce qu'au bout d'un moment, quand un dirigeant est au pouvoir depuis 50 ans, je pense qu'il n'a plus trop... Enfin, trop son problème.
Des coups d'État. Par exemple, en Guinée, en 2020, je pense. En Guinée, Conakry. Il y a eu un coup d'État. Au Burkina Faso, d'État. Au Gabon, Mali.
Voilà. En ce moment, tous les pays qui ont été colonisés par la France, c'était plus vers cet hiver, il y a eu des vrais mouvements de révolte.
Les Nigériens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, l'Africain, la jeunesse sont réveillés. Ils savent que l'Afrique, c'est le futur. Il y a tout ce qu'il faut en Afrique pour se développer. C'est pas parce qu'on veut se développer qu'on va pas travailler avec les autres. Tu vois, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Les nouveaux dirigeants, au lieu de se faire corrompre, au lieu de travailler avec les autres, pour pouvoir partager, gagnant-gagnant. Tu veux, c'est comme ça. Tu veux du pétrole, on t'y achète, on vend.
Ouais. Gagnant-gagnant. Acheter, ça n'existe pas.
C'est ça, voilà. C'est la corruption. C'est ça qui fait que c'est la corruption. Regarde, les Allemands, ils sont là, mais ils ne colonisent pas l'Afrique. Ils sont chez eux, ils travaillent avec différents trucs. Mais il faut que l'Afrique se réveille, en fait. C'est pour cela que c'est un mouvement. Mais la jeunesse est là. Nous, on est là, vous êtes là. Toi, c'est pas parce que tu aimes ton... Comme tu peux être chez toi, tu peux aimer chez toi et respecter la maison de l'autre.
Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le mouvement panafricain, il est plus présent, par exemple, en Europe ou en Amérique, tout ça, qu'en Afrique réellement ? Alors, vous pensez que non ?
Oui, je pense que c'est plus la diaspora, comme on disait tout à l'heure. La diaspora, c'est les Africains qui ne vivent pas en Afrique. Je pense que oui, il est plus présent dans la diaspora. Moi, même sur les réseaux sociaux, j'en vois.
Même en Afrique. Hein.
Je pense qu'il y en a. Parce qu'en fait c'est juste qu'ils ne vont pas appeler ça un mouvement panafricain.
Voilà,
pas.
En fait, l'Africain, il le vit.
Ouais, parce que nous, on est dans la diaspora, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Voilà, alors que les Africains.
Ils le vivent, il n'y a pas besoin de réel nom pour définir ça.
Et qui fait que aussi, les Africains qui sont en Europe aussi, qui n'importe où, c'est parce qu'aussi, ils voient la différence. Ils ont voyagé.
Exactement.
Ils voient vraiment la réalité.
Oui.
Que celui qui n'a pas voyagé.
On peut comparer les deux.
Voilà, il ne peut pas comparer les deux. Mais quand tu voyages, tu vois la différence, ce que tu peux faire, tes valeurs aussi. Si tu es conscient des choses, quoi. Tu vois un peu la différence, en fait.
Mais même le fait de voyager librement, par exemple, je me dis, si l'Afrique, c'était comme un peu l'Union européenne, si on pouvait, il n'y avait pas de visa, on peut voyager comme on veut, ce serait beaucoup plus... c'est
fluide,
utopique.
Plus fluide, voilà.
Je crois que ça a commencé, le Rwanda, le président du Rwanda, je crois, a déclaré que maintenant tout ressortissant africain, donc toute personne ayant une nationalité et un passeport africain souhaitant se rendre au Rwanda n'avait plus besoin de visa, et ça devrait être logique.
Ça devrait être logique, comme l'Union européenne, l'Afrique aussi doit avoir un passeport pour circuler dans l'Afrique. Mais tout ça va venir, c'est on se réveille, en fait. Ça va faire du temps, mais parce que tous les années qu'ils nous ont aliénés.
Ouais, mais la corruption, elle est là. Le truc parce que on voit des élections. On a une personne qui se présente, elle a 99%. Tu dis.
Mais ça se perd, tout
au
ça.
Au moins, soyez un ça peu cohérents. Il y avait un président, je ne sais plus c'est quel président, et je ne sais plus quelle année c'était. Mais en gros, à chaque fois qu'on additionnait ces pourcentages des tours, ça faisait plus de 100%. Donc, au moins, soyez un peu cohérents dans les chiffres, je ne sais pas. En fait, c'est vraiment des chiffres, c'est même pas logique. Des 98%, alors qu'on sait très bien que...
C'est la corruption. Mais maintenant, ça commence à... Comme je disais tout à l'heure, la jeunesse, ils sont réveillés. Tu vois, ils vont voter pour pouvoir élire ce qu'ils veulent sans la complicité des Occidentaux.
Mais il y a aussi des personnes qui sont illettrées. Hein. Ça, on n'y pense même pas. Ouais. Des personnes vont voter, mais elles ne savent même pas pour qui elles votent.
Voilà, c'est ça. Parce que c'est la corruption. Comme on dit, on va donner de l'argent pour pouvoir voter l'autre, porter le t-shirt de l'autre.
Oui,
pour
exactement. Bah, l'argent, juste... ça fait...
Voilà, c'est ça.
Mais la corruption, quand j'étais à l'aéroport, quand j'étais en Guinée, on me demandait des billets. Enfin, on m'avait dit, vous n'avez pas un petit billet? Du coup, j'étais dans un billet. Et genre, c'était normal. C'était normal, vraiment normal. Ouais. Bah, anecdote à ce sujet. D'ailleurs, maman, si tu écoutes, c'est ton anecdote. À l'aéroport, en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de corruption qu'en fait, ils sont obligés dans les enceintes, dans le son de l'aéroport, quoi, de mettre des messages, je crois, toutes les 15 minutes ou un truc comme ça. Si un officier vous demande de l'argent, ne lui donnez pas, c'est interdit, pour que les officiers ne demandent plus d'argent aux passagers. Parce que c'était tellement un problème qu'ils ont été obligés de faire des annonces comme ça tout le temps maintenant.
La corruption. Ça tue les pays, hein. Vraiment.
C'est ça. Ça commence à l'aéroport jusqu'à l'intérieur.
Pour les examens. Il y en a qui mettent de l'argent pour avoir une bonne note. Mais en Guinée, depuis, je pense, 2021, un truc comme ça, ils avaient interdit ça. Du coup, il y a eu plein d'élèves qui n'ont pas eu leur bac. Parce que, tu sais, les épreuves, c'est ultra compliqué là-bas. Du coup, il y a des gens qui mettaient de l'argent pour avoir leur...
Comme on dit, c'est toujours l'aliénation. Les gens, ils croient que c'est comme ça que ça doit se passer, mais non. Mais ça commence à se réveiller, c'est à donner les valeurs qu'on a, que ça a besoin de passer par là. Même comme tu disais, même la politique, hein, c'est, voilà, on nous a colonisés. Même la politique, ce n'est pas pour nous, ministre, président, tout ça. Nous, on avait nos réalités. C'est ça qu'il faut, tu vois, tout en adaptant l'autre, en fait. Si tu as tes propres réalités, tu évolues.
En fait, la corruption, ça nuit réellement à la solidarité de tous les Africains. Oui, en fait. Ça instaure un manque de confiance avec les individus et ça ne permet pas d'avancer réellement.
Tu vas rentrer dans la mairie pour pouvoir prendre juste ton certificat de naissance. L'autre, il va te dire, donne-moi un billet, je vais te sortir tout de suite. Tu vois, et pourtant, c'est juste un... Tu vois, il va te demander un petit billet.
Ça n'a pas lieu d'être.
Voilà, pas de lieu d'être. Tout le monde fait la queue, il va te voir de l'autre côté, il va te demander un billet, je rentre, je te ressors. Et tu dois faire la queue comme tout le monde et puis tu attends. Qui fait que c'est dans la tête des gens. Il faut que tout ça, il faut que ça soit lavé. Quoi.
Mais j'avais regardé une vidéo sur le panafricanisme et ils avaient parlé des choses que les panafricains, ils voulaient changer et que les occidentaux, ils pensaient que c'était récent, que les panafricains voulaient changer récemment. Alors que, par exemple, l'expulsion des bases militaires étrangères sur le sol africain, c'est depuis 1958 que les Africains veulent le faire.
Avant même que la plupart des pays aient leur indépendance.
Oui, ça fait depuis très longtemps, mais on le dit comme si c'était nouveau, comme si les bases militaires au Mali, c'était nouveau, au Burkina, c'était nouveau. En fait, le panafricanisme, il est très mal représenté, j'ai remarqué. Quand on s'intéresse plus profondément, on comprend vraiment pourquoi du comment, pourquoi il y a des personnes qui sont militants. Ouais, qui militent.
Mais si on regarde qu'à la surface, on dirait juste des extrémistes. En fait.
Oui, voilà, oui, c'est vrai. Quand on regarde juste à la surface.
C'est comme aujourd'hui, en Europe, ils vont voir un noir, quelqu'un qui ne va pas vers le noir ou vers l'arabe, il va le voir un peu celui qui va mettre des bombes, celui du voleur, ou bien... Non, va parler avec la personne et à partir de là, tu peux avoir ton opinion de la personne. C'est pas ce que tu vois juste dans le... T'as peur de l'autre, en fait. Et qu'en fait,
En fait, les gens ont forgé leurs idées sur les Africains seulement avec une minorité. Avec un point de vue très, très large.
Tout à fait, c'est ça. Et dans le africanisme, c'est ça, les gens, ils se battent comme il y avait pas mal dans la paix, comme Martin Luther King, qui se battait aussi pour la paix, pour les choses, Malcolm X, il y a plein de gens qui sont dans le truc depuis longtemps. Mais c'est juste que ça continue, en fait. Le réveil est là, le réveil de conscience, et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont...
Et est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont aidé ça réellement, avec la diffusion et tout ça
Il y a ce côté positif-là aussi pour les réseaux sociaux. Il y a du négatif, comme il y a du positif. Et ça réveille aussi sur pas mal de gens qui vont aller chercher, se ressourcer pour savoir pourquoi ça. Et ça, c'est du positif. Tu vois? Et moi-même, je viens de sortir un son là qui va sortir bientôt qui s'appelle Sound System. Je dénonce tout ce qui est... je parle pas mal de choses sur le panafricanisme, sur les choses comme ça. Parce que nous, les chanteurs, on aime bien aller dans les concerts, dénoncer. Moi, je suis un militant, j'écris sur les choses conscientes, en fait. Et ce morceau-là s'appelle Sound System. Et dans les Sound System, c'est pour dénoncer ce qui se passe dans ce système, en fait. Et tout en parlant de la paix, comme aujourd'hui, ils ont enfermé Abu Jamal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Abu Jamal. Il est aux États-Unis. Ils étaient accusés d'avoir tué quelqu'un. Et c'était un journaliste noir qui combattait pour la paix. Vu qu'il écrivait tout le temps sur lui depuis plus de 40 ans. Mais 40 ans, il est en prison.
Mais il nuait à, par exemple, un État. Et du coup...
c'est ça.
Il fallait juste l'enfermer.
Accusé d'avoir tué un policier. Il n'a même pas d'arme, rien du tout.
Il faut juste l'enfermer.
40 ans, il est là-bas.
En fait, je ne sais pas si le fait de penser que l'Afrique va aller mieux, ce n'est pas utopique. C'est juste optimiste.
Non, ça va aller mieux. Au fur et à mesure, on a du boulot, mais...
Parce que si l'Afrique allait vraiment bien, par exemple, l'exportation du cacao, la Côte d'Ivoire, c'est le premier ou le deuxième exportateur de cacao dans le monde. Ouais. Et c'est dire que, par exemple, en Suisse, on mange plus de cacao qu'en Côte d'Ivoire.
C'est assez dérangeant.
C'est très mal fait, en fait.
Mais toutes les bonnes choses sont là, ils vont aller chercher, qu'ils soient le poisson, qu'ils soient les fruits, qu'ils soient plein de choses, ça vient de là-bas. Il y a plein de trucs, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui
viennent de là-bas. Mais même au Congo, il y a beaucoup de ressources naturelles. En Guinée, il y a de la bauxite. En fait, il y a plein de choses. Au Nigeria, il y a du pétrole.
Bah, oui. Ah oui, il y a du pétrole. Au Congo, il y a pas mal de choses.
De l'or.
Au Nigeria, le pétrole. Et, ça. Au Sénégal, le poisson, aujourd'hui, les Chinois sont là. Ils mettent dans les cargos. Ça part tout le temps. Hein. C'est...
Moi, je reviens sur ce que tu as dit, Nestaba. Moi, je pense pas personnellement que ce soit une vision utopique, mais en fait, c'est que ça soit plutôt la normalité. Mmh. Je pense qu'en fait, ça devrait être comme ça.
Voilà,
et
c'est ça.
Comme
ouais, ça
sur... On a commencé à aborder un peu le sujet de la Chine, et justement, ça faisait un moment que je voulais l'aborder. Parce que le mouvement panafricain, du coup, souhaiterait l'unité de l'Afrique au profit de l'Afrique, et l'émancipation envers les Occidentaux. Mais l'Afrique semble s'émanciper de plus en plus de l'Europe, surtout, mais au profit un autre acteur qui serait la Chine, qui est donc cette superpuissance en devenir qui prend beaucoup de ressources en Afrique, apparemment, comme le disait Salam.
Oui. J'ai un exemple, par exemple, du beurre de karité. Et bah, c'est un exemple bien précis. Parce que, par exemple, les Chinois, ils vont produire du beurre de karité, mais eux, ça va être avec des machines. Et ça va être moins cher.
Ouais.
Alors que devant, on va par exemple avoir des Maliens ou des Guinéens qui vont faire à la main. Et en fait, c'est beaucoup plus lent à faire et on ne peut pas en faire autant parce qu'avec des machines. Et c'est là que j'avais vu vraiment une différence entre les deux. Et on pourrait se dire, on pourrait acheter chez les Chinois parce qu'ils en font plus et c'est plus facile à faire. Mais d'un autre côté, ça détruit un peu le commerce des...
C'est vrai que ça détruit
après, c'est
le commerce.
Après, ce n'est pas la même valeur en plus.
Oui, ce n'est pas la même valeur. C'est pas la même...
Ouais,
c'est pas
la même valeur. Ça crée un peu une dépendance avec les Chinois. Et là, cette facilité aussi...
C'est ça. Tout c'est facile, ça coûte moins cher. Et puis, les Chinois aussi, ils ont pas mal de choses. Même les Nike,
ils savent tout faire.
Ils vont faire des Nike tout de suite. Hein.
C'est vrai que l'économie en Chine se base beaucoup sur... l'économie industrielle, on va dire. Se base sur le réplica.
Ils copient plein de choses. Moi, j'étais en Chine. Parce qu'une cité, là, c'est comme ça. Tu viens, tu ramènes ça, ils font ça sur l'ordinateur. Ils disent, tu reviens dans 15 minutes, ils te font ça. Des chaussures, tout de suite, qu'ils soient des chaussures, qu'ils soient des t-shirts, des casquettes, tout de suite, ils te font ça. Ils ne cherchent pas, tu reviens, ils font dans l'ordinateur, clac, clac, clac. Et,
l'industrie du textile,
voilà,
en fait.
Du textile, ils sont là. Qui fait que ça, c'est ça qui fait marcher leur business aussi.
Oui.
Ils sont rapidement.
Ils sont beaucoup implantés dans l'Afrique.
Ils sont partout.
Ils sont partout.
Partout. Même en France, tu vas à Paris, c'est dans le 13e, ailleurs maintenant, tu as vu, maintenant, ils prennent tout. Qu'ils soient les tabacs, qu'ils soient. Tout. Tu vois, mais quelque part aussi, c'est des bosseurs. Mais voilà, c'est ça aussi. Il faut que les gens se motivent aussi pour. Et nous, les Africains aussi, on a beaucoup de choses. Il faut qu'on le mette en valeur et croire en nous aussi. Tu ne dois pas seulement copier. Parce que nous, l'Africain, quand tu vois, on est plutôt consommateur. On consomme beaucoup sur l'autre. Comme tu disais tout à l'heure, les gens, c'est des extrémistes. Mais quand on parle de ça, non. C'est que, il faut donner la valeur à tes produits.
Nous, on sait faire.
Et nous, on ne fait que consommer. On a des bonnes choses. Et les autres, ils voient des bonnes choses chez nous. Ils vont les prendre pour nous le vendre nous-mêmes.
C'est ironique.
C'est ça le problème.
Mais par exemple, le Nutella, je me rappelle quand j'étais allée en Guinée, j'en avais ramené et tout. J'ai trop d'années. Et genre, ils étaient en mode, c'est trop bon et tout. J'étais genre, mais le cacao, il vient d'à côté, il vient de la Côte d'Ivoire en fait.
Même le téléphone là, l'iPhone.
Mais oui, le téléphone. Dedans,
ça vient d'Afrique. Et puis là.
Mais c'est juste qu'on ne sait pas l'exploiter. Voilà. Parce que, là, par exemple, la bauxite, en Guinée, c'est les Chinois qui l'exploitent. On ne sait pas les Guinéens.
Voilà, c'est ça.
Mais même au Cameroun, j'ai vu c'était dans des mines, un truc comme ça. Et il y avait un Camerounais qui était en train de se disputer avec un Chinois parce que le Chinois ne l'avait pas payé. Vraiment, c'est ça que j'ai vu la vidéo aussi. Mais vraiment, ça va trop loin.
C'est vraiment c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui... avec des problèmes comme au Congo, en RDC. Aujourd'hui, c'est triste quand même d'en arriver à ce genre de choses pour des ressources qui ne sont même pas aux exploiteurs.
En fait, c'est tous les pays qui sont autour qui exploitent ce qu'il y a en RDC.
Oui, là, ce n'est pas forcément la Chine ou l'Occident. C'est des pays africains entre eux
oui.
qui se volent leurs ressources. Ouais. Alors que...
J'avais vu ça aussi. En fait, il y a un peu un parallèle et une question de, d'importation et exportation directement dans l'Afrique, mais aussi avec les autres pays, tout ça, comme, bah, comme on a parlé de la Chine. Mmh. Par exemple, à la Chine, pour l'Afrique, il y a beaucoup d'importations de la Chine qui vont en, mmh. en Afrique, justement parce que le prix est très bas. Mais en parallèle, pour l'Europe, bah, ce n'est pas le cas et c'est le, l'exportation et l'importation sont très peu, en fait. Ouais. Donc, en fait, l'Afrique se décide un peu à se tourner vers aussi la Chine un peu. Tout mais ce n'est pas tant une question de dépendance, mais c'est tant une question d'échange, en fait.
Échange, voilà,
pour,
c'est
en
ça.
Fait, ça, ça. En fait, ça fait du bien pour les deux
voilà,
États.
Voilà, c'est ça. Donnant-donnant, en fait.
En fait, ça dépend c'est parce ça. Que non, moi, je fais l'aspect géopolitique. Vraiment, et on a vu ça très, très, très rapidement. On a juste brossé la surface. La Chine, par exemple, dans certains pays, je ne me souviens plus exactement, je pense qu'il y avait le Soudan dedans, je ne sais plus, va proposer de l'aide ou de l'argent, mm-hmm. sauf que ça va être des milliards de dollars d'investissement mm. et que le pays devra repayer à la Chine.
Et, oui, et en fait, et du donc, coup, ça crée une prend, dépendance.
Ça ouais, une dépendance ouais, parce que vu ça, ouais. ça prend des décennies pour mm. rendre tout cet argent à la
et
Chine.
Et donc, en fait, mm. la Chine, en fait, ils ont un peu une position, ils le voient d'eux-mêmes, en vrai de vrai, la Chine, de pouvoir commander ce qu'en fait ce qu'ils vont faire en Afrique en fait de pouvoir donner les ordres un peu parce que voilà on vous a donné des milliards maintenant vous avez un peu des obligations par rapport à nous et
oui ouais. tant qu'ils n'ont pas remboursé la Chine peut soit du coup utiliser les ressources mm. tant qu'elle veut soit c'est avoir vrai, tous vrai. Les bénéfices
donc en fait il y a une dépendance sur certains pays de l'Afrique mais pas tous mais il y en a quelques uns mais ouais
beaucoup ouais, une, hein. ouais, une grande je sais que partie, ouais. dans mon pays par exemple le Congo la République du Congo ma grand-mère souvent elle y va. Et elle nous raconte que les commerces, ce genre de choses, tout est tenu par des Chinois. Mmh. Il n'y a plus d'Africains qui vendent leurs propres produits.
Ils doivent se détacher, en fait, au lieu de s'attacher comme ils mmh. viennent de le faire. En fait.
Ouais, y en a comme ça.
Donc, je me dis, c'est compliqué pour les Africains de s'unir si même sur leur terre, il y a d'autres personnes qui ouais. leur mettent un peu des bâtons dans les roues.
Mais c'est pour c'est... ça tout le temps, je
non, dis... Mais ça, c'est le gouvernement, c'est en fait. C'est ouais. même pas le... Le truc, c'est que, comme on dit, c'est donnant-donnant. C'est, ça veut dire qu'il y en a certains qui s'installent et mmh. des étrangers, comme ils disent, et qui ne payent pas d'impôts, qui viennent et que toi-même, tu vas aller au Congo pour pouvoir installer, pour pouvoir créer une entreprise. Ils vont te demander tous les papiers qu'il faut pour pouvoir et tu vas te décourager.
Oui.
Et que l'étranger, il va venir, ils vont lui faciliter la chose.
Ouais.
Et qui fait que, voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est ça qu'il faut sortir de. Du mouvement africain en fait. Mais sinon, à part ça, voilà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ils sont là, les militants. Hein.
Mmh. Les Africains mais militants, la Côte d'Ivoire, ils viennent d'interdire l'exportation de plusieurs produits vivriers. J'ai vu ça. Y a... Oui. Donc, c'est par exemple tout ce qui est les tomates concentrées, l'igname, des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça fait un. Ça fait un petit mouvement qui change, quoi. Ça fait ouais. avancer le pays.
J'ai l'impression que ce sera, pour en globalité, l'Afrique, ce sera un processus très long.
Mais oui, c'est vraiment long. En fait, ça fait longtemps qu'on dit ça.
Ah, mais c'est long, mais c'est normal. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la colonisation, c'est l'aliénation culturelle qui est fondée dans l'Afrique sur beaucoup de choses. Comme on disait avant, on nous disait faut pas vos valeurs, là, faut pas toucher. Ce qu'on vous dit, c'est ce qui est bien, mais il ne faut pas qu'on soit égaux, tu vois, d'une manière. Et qui fait que ça a des années, comme je dis aujourd'hui, tu vois, toutes les femmes, la plupart des femmes africaines, ils portent des perruques, des mèches, des faux cheveux. En mettant ça, elles sont belles. Mmh. Des fossiles, des trucs. Non, il faut garder l'authenticité, comme tout le monde, tu vois. Et à partir d'elle, tu peux aussi, après, de temps en temps, aller voir autre chose, te valoriser. Mais d'abord, valorise-toi. Sur tes propres valeurs, c'est là qu'on te respectera. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, mais c'est normal que c'est facile à manipuler, en fait.
Mais après, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que, bon, ça sort un peu du mouvement panafricain, du sujet. Mais par exemple...
Pour garder les valeurs, pour, quand tu dis l'Afrique, c'est, voilà, c'est pour garder les choses, il faut que la conscience de...
Mais l'Afrique est quand même une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Oui. C'est assez paradoxal parce que les Africains n'arrivent pas à s'unir pour porter leurs valeurs communes, parce que souvent dans les pays africains, les valeurs sont à peu près les mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays qui ont les mêmes couleurs dans leur drapeau, pays tricolores vert, jaune, rouge, où souvent les couleurs représentent la même chose et les devises vont être assez similaires. Et donc ces valeurs-là, j'ai l'impression qu'elles parlent à beaucoup de personnes, mais que les Africains eux-mêmes n'arrivent toujours pas à s'unir pour les porter. Par exemple, même au niveau stylistique, vestimentaire, il y a beaucoup de choses typiquement africaines qui deviennent, qui se démocratisent. Ouais, exactement. Mmh. Qui se démocratisent globalement, qui vont être plus portées. En fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses, quand elles sont faites par des Occidentaux, elles sont
incroyables.
Ouais. Mais dès que ça va être fait par des Africains,
C'est ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est l'aliénation. C'est ça qu'il faut enlever dans la tête. Cette chaîne mentale là qui est dans la tête des Africains, comme tu dis, c'est ça qu'il faut briser en fait.
Mmh. Mais par exemple, imaginons, tu prends des bananes plantain, tu mets dans la friteuse, tu sais, on fait ça depuis. Et ben par exemple, il y a un chef français qui va faire ça. Il va faire waouh, c'est incroyable. On a découvert un nouveau truc. Alors que ça existe depuis longtemps. Ça existe vraiment depuis longtemps. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. Mais c'est comme, tu vois, les patates douces, les frites de patates douces. Moi, je pensais trop que c'était un nouveau truc.
Moi aussi, je pensais c'est pas un
nouveau truc. Non. J'ai dit à ma mère, mais comment tu connais ça et tout, parce qu'elle avait préparé ça. Elle a dit, mais vous croyez trop que vous avez inventé les trucs ici. Nous, on fait ça depuis longtemps. J'avais trop la honte. En fait, on pense trop qu'on découvre des choses alors qu'elles existent depuis longtemps.
Ouais, c'est le complexe qui fait qu'on ne mettait pas ça en valeur. Mais maintenant, vous, la jeunesse, tous les trucs, ben, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Les gens, ils découvrent, ils les mettent en valeur. Il y en a, moi, j'ai connu des enfants. Avant, leurs parents, ils venaient les chercher à l'école juste avec le mboubou. Ils ne voulaient pas. Maman, viens pas me chercher un mboubou. Viens porter un jean comme le maman à côté. Non. C'est complexe, là, parce qu'ils voyaient la maman à côté en jean. Et que leur maman venait en foulard, en tenue africaine, et toi...
Ça, en vrai, d'un côté, je comprends, parce que quand on est enfant, on veut être comme tout le monde.
C'est les parents qui n'apprennent pas leurs enfants les valeurs. Et ça, c'est comme les Antilles, la Guadeloupe, il y a plein de choses. Quand tu leur dis, vous êtes africain, ils disent non, parce qu'on ne les a jamais dit d'où ils venaient. Et de fur et à mesure, ça se perdait. Et génération en génération, ça ne se disait pas à l'autre, et ils ne savent pas d'où ils viennent. Une fois que tu as dit, tu es africain, toi.
En fait, ils sont afro-descendants.
C'est ça.
Mais je pense que le mouvement panafricain, c'est aussi un mouvement qui cherche à décomplexer les Africains de leurs racines. Je pense que c'est aussi.
Il faut apprendre sa culture, apprendre d'où on vient. C'est très important qu'il soit africain ou autre, français ou autre. Quand tu sais d'où tu viens, t'es solide. T'es solide et puis tu es mieux à avancer en fait. Tu sais où tu vas. Mais l'Afrique, ça arrive. Hein. Ça va être dur de l'Union africaine maintenant, mais l'idée, elle est là. On en parle. Comme aujourd'hui, on en parle. Vous êtes jeunes, il y a plein de trucs. Et de fur et à mesure, les valeurs sont là. Et à partir de là, on pourra faire la part des choses. Le partage, tu vois, de l'autre et l'autre. Chacun prend sa part, en fait. Équitablement.
Oui.
Comme le business, tu as ton magasin, là, tu viens, tu as un pourcentage, c'est comme ça.
Oui.
C'est comme ça que ça doit se faire, en fait. Et après, ça avance tout seul. Hein. Parce que l'Afrique a été trop exploitée des siècles. Aujourd'hui. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours... C'est pour cela que les gens s'unissent pour pouvoir voir comment on peut vraiment se positionner, pour s'unir, pour voir comment on peut développer l'Afrique avec tout ce qu'on a. T'as toutes les valeurs qu'on a à l'Afrique, les richesses, plein de trucs, comment on peut développer ça sans que les autres viennent nous piller, en fait, avec la complicité de nos gouvernements qui sont corrompus. Ça, qui fait que c'est ça qu'il faut mettre en frein, en fait, et développer notre propre richesse. Tu vas pas voir un Sénégalais qui va venir en France pour dire donner des ordres à Macron. C'est pas possible. Parce que la France appartient aux Français. C'est normal. Il faut qu'ils mettent leurs valeurs en place, tous les trucs. Des siècles et des siècles maintenant, il faut pouvoir sortir de ça. Ça va être dur, mais on va arriver.
Lentement, mais sûrement.
Voilà, il faut y croire, quoi. Hein? Avoir du positif.
Comment ? C'est bon, il nous reste 15 minutes, vous inquiétez pas.
C'est cool.
Oui, donc franchement, moi, je pense que le mouvement panafricain grâce, comme on le disait tout à l'heure, on a vaguement parlé de ça, mais grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux que l'idée m'est venue, parce que j'en ai entendu parler encore. Et je me suis dit, ah, mais c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'il ne faut aussi pas oublier que le lycée Flaubert, il y a tellement d'élèves, il y a tellement de diversité, qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont concernés par ce mouvement. Et je suis sûre que dans les auditeurs, il y a aussi des personnes qui nous écoutent maintenant qui sont concernées par ce mouvement, qui sont peut-être même engagées dans ce mouvement. Donc je me suis dit, c'est très important.
Et puis, de temps en temps, il faut se regrouper, toi, et parler de ça là où toi. Parler, c'est important, hein. Avoir des idées, faire des petits mouvements, de concerts, même des trucs, tu vois.
Mais puis, le panafricanisme, il est présent déjà, enfin, il existe en tout cas depuis déjà plus d'un siècle.
Depuis longtemps, la première réunion panafricaine était en 1900.
C'est que aujourd'hui que une grande population en fait est au courant en fait de ça, et ouais, c'est par du coup les réseaux sociaux. Donc en vrai, ouais, donc c'est je pense une bonne chose. Ouais.
Les réseaux sociaux, ça a été quelque chose de positif.
Là où je pense que avant ça, il y avait seulement une part de personnes qui étaient au courant. Même je pense chez les Africains, ils n'étaient pas tous mis au courant de ça. Ils s'étaient peut-être ancrés en eux, mais
utiliser ça différemment en fait, sans vraiment savoir.
Et les réseaux ont permis cette diffusion en fait dans le monde entier en fait, du coup ça a permis à tous les Africains, et même pas forcément les Africains,
tout le monde,
juste la population de manière générale en fait. Ils ont été mis au courant en fait,
se réveiller un peu, de voir un peu le mouvement, c'est comment.
C'est ça. Bon, moi c'est la même chose. Si on prend l'exemple de moi, je n'ai aucun sang africain ou quoi, j'ai été mis au courant de ça, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Sinon, je pense que j'aurais peut-être jamais été mis au courant de ça, en fait. Et en fait, je vois le combat que vous menez. En fait, c'est très intéressant. C'est très important. Ça doit être mis à l'avant encore plus que ça l'est maintenant, en fait.
C'est ça.
Pour faire un parallèle, est-ce que toi, par exemple, dans ta communauté, il y a ce genre de mouvement ? Est-ce qu'il est vraiment relayé ?
Moi, en fait, nous, si je prends l'exemple de moi. En fait, c'est déjà ancré dans notre communauté à nous. On a carrément un codex, en fait, on appelle ça le Norchala. Et en fait, c'est un code où en fait, ça permet de garder en fait la communauté unie. Donc, vu que c'est une communauté et que c'est pas des pays africains, c'est beaucoup plus simple, forcément. Nous, c'est un combat à une plus petite échelle que vous, et ça se maintient, donc c'est bon, ouais.
Donc en gros, les Tchétchènes, ils veulent être indépendants.
En fait, c'est plus pour niveau de la communauté, en fait, c'est un peu comme des règles, pas des lois, hein, mais vraiment des règles qu'on nous instruit à être, en fait, pour la communauté. Quelqu'un de la communauté est en danger, tout le temps l'aider. En fait, c'est de l'entraide sur tous les points, sur tous les aspects, en fait, de la communauté. Donc, même si telle personne est psy ou je sais pas, n'importe quoi. S'il est tchétchène, un tchétchène va forcément l'aider, en fait. Nous, c'est un peu comme ça. Mais comme je le rappelle, c'est une plus petite échelle que le continent africain. Forcément. Donc, c'est un combat plus simple, un peu.
Franchement, c'est beau, et c'est quelque chose. Je pense qu'on devrait prendre exemple.
C'est beaucoup plus simple. Forcément, c'est plus simple.
C'est vrai que le continent africain, c'est le plus grand continent au monde.
C'est mal représenté sur les cartes. Mais très, très mal représenté.
C'est vrai.
Mais sinon, c'est juste un pays. On dit l'Afrique, c'est un pays, ça y est.
C'est vrai que souvent les gens pensent que c'est un pays. Parler africain.
Mais il faut que maintenant qu'on soit unis pour que ce soit un pays.
En fait, les frontières, en réalité.
Les frontières, on les a divisées. Tu sais, l'Afrique avant, elle s'était unie. Parce qu'on les a. Pendant les Occidentaux, ils ont colonisé, ils ont divisé l'Afrique.
Pendant la conférence de Berlin, qui ont tracé, en fait, clairement, avec des règles.
Frontières exogènes. J'ai appris ça en géopolitique. Sociologique, c'est des frontières exogènes qui sont faites de l'extérieur.
Et en fait, d'une certaine manière, en fait, c'est vraiment à cette conférence-là, avec les dirigeants des plusieurs nations, en fait, qui a créé cette séparation entre tous les Africains, d'une certaine manière. C'est avec l'instauration de lignes, en fait, qui séparent littéralement les pays. Alors que, comme tu nous as dit, Kélia, tous les pays d'Afrique en fait ont un peu les mêmes cultures et tout, les mêmes valeurs, les mêmes devises, les mêmes idées.
Bah, c'est parce
ça.
Qu'en fait les et frontières elles ont pas été
divisées pour mieux régner.
Elles ont pas été faites en prenant en compte les peuples qui vivaient sur le territoire.
Et pourtant ces mêmes frontières ont fait des guerres. Il y a eu des batailles, donc aussi ça a contribué à cette séparation.
Voilà, c'est divisé.
Sans le vouloir, les Africains ont été divisés en fait.
Les Africains d'aujourd'hui, ils ont les frontières, elles ont été intégrées par les Africains d'aujourd'hui. C'est plus quelque chose de bizarre.
Ouais, voilà, exactement. Alors que je pense que il y a des décennies, avant même la colonisation, quand cette colonisation est arrivée et quand ces lignes sont arrivées, je pense que ça a suscité beaucoup de bruit chez les Africains, tout ça.
Il y avait des peuples, des royaumes et tout.
Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui,
des empires même.
Ouais,
des empires,
comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est président, c'était pas pour nous.
Ouais, et aujourd'hui, avec le temps qui est passé, tout ça, ça s'est fait sur plusieurs siècles. Mais en fait, les colonies et les lignes tracées comme ça, cette séparation, en fait, elle a été imprégnée par les Africains, je pense. Et en fait, du coup, ça devient un peu normal pour eux de dire « Ah, tel est Ivoirien, moi, je suis Sénégalais, on n'a pas grand-chose à voir. » Enfin, on a des choses, mais pas à 100%, alors. Alors qu'en fait, c'était le cas il y a déjà plusieurs siècles.
Mais très souvent, je trouve qu'en tant qu'Africain, on dit toujours notre ethnie. Par exemple, je suis Ivoirien, mais je suis Doula, par exemple. Il y aura toujours ça.
Oui, il y aura toujours ce truc d'ethnie.
Ouais.
Chez nous,
Je sais pas si
par exemple. Je pense que ça a été amené aussi par la colonisation, sûr en fait.
Avant, justement, on disait juste je suis people, je suis.
À
la base, les peuples, c'était les ethnies.
Ouais.
Et maintenant qu'il y a des pays, on est obligé de dire je suis de ce pays, mais mon ethnie, c'est ça. Parce que par exemple, avant la colonisation et les séparations, enfin les frontières, il y avait le Royaume Congo avec un K. Et donc, plusieurs pays d'Afrique centrale étaient regroupés, comme la RDC d'aujourd'hui et le Congo-Brazzaville, la République du Congo d'aujourd'hui. Donc techniquement, on est le même peuple.
Ouais,
nos pays ont quasiment les mêmes noms. Pourtant, les Congolais de Brazzaville, et on appelle les autres les Congolais de Kinshasa en rapport avec les capitales, ne vont pas se considérer frère ou cousin ou n'importe quoi.
Bah nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, c'est pas du tout pareil.
Ouais, mais il y a beaucoup de... Pas du mépris, mais presque du mépris de la part de peuples.
Nous, ça n'a rien à voir.
Tout ça, c'est par rapport à la division, mais la colonisation.
Nous, c'est pas pareil. Alors que par exemple, je vais voir moi, par exemple, je suis Diaranké. Je vais voir un Peul. Je vais me sortir... par exemple, il y aura un Guinéen qui sera Peul. Je vais plus me sentir proche d'un Sénégalais Diaranké plutôt que lui qui est Peul. Parce qu'on n'est pas de la même ethnie. Même si on est du même pays, moi, c'est pas. Franchement,
les Congos, c'est pas comme ça. Et je trouve ça vraiment triste parce qu'on parle les mêmes langues, on a
les mêmes langues,
les mêmes cultures.
Ouais, c'est vrai.
C'est n'importe quoi.
Ça
n'a
rien à voir en Afrique.
C'est une division. Après, c'est des bêtises, tout ça. C'est comme si tu disais la France, la Bretagne, il y a des trucs par là.
Ah oui, tout ça.
Voilà. Ouais. Et pourtant, c'est la France. Tu vois, ça doit pas avoir un problème d'ethnie ou de quoi que ce soit. T'as. C'est juste que c'est dans la tête, ça se passe. Après, c'est.
Mais si les pays étaient faits en fonction des peuples, ça aurait été vraiment des cartes avec des mini-pays. Voilà. Parce que, par exemple, les peuples, ils sont dans tellement de pays en Afrique, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais bien sûr.
Et ça aurait été vraiment compliqué de...
Et puis, tu vois, l'Afrique a plusieurs langues.
Oui.
C'est tellement qu'on a des langues. Les autres nous disent que nos langues, c'est des dialectes. Mais pour dire qu'il n'y a pas de valeur. Non, c'est des langues. C'est pas des dialectes, c'est des langues. C'est-à-dire que on nous a colonisés pour pouvoir parler français, l'autre anglais. Ils ont rapporté ça. Mais on doit avoir une langue officielle en Afrique et que tout le monde. Mais on a plein de langues tellement que,
comme tu disais,
qu'ils ont le Lingala, le Wolof ou autre chose. Il y a plein de langues qui sont en Afrique en fait. C'est ça qui. Et tu vois, en Africain, il a minimum deux langues.
Oui, c'est vrai.
Minimum.
C'est vrai.
Et la plupart, ils ont 3, 4 et 5 langues qui parlent. Ils vont parler leur langue à eux, au moins 3 langues de chez eux, plus les langues occidentales qui sont l'anglais ou français ou portugais ou espagnol.
Tu parles minimum français, lingala. Ouais. Et après, selon ton ethnie, tu parles une autre langue. Donc moi, si je parlais mes langues, je parlerais français, lingala, lari. Et du coup, anglais, mais ça est venu après.
Voilà, c'est la plupart. Il y en a même, ils n'ont même pas été à l'école. Ils parlent les autres langues occidentales.
Et puis même, pour les enfants de la diaspora, les gens de la diaspora, même quand on a une langue d'Afrique qu'on parle, par exemple, ce n'est pas valorisé, on ne le met pas sur le CV qu'on parle Wolof.
Mais après, par exemple, les langues qu'on pourrait mettre, par exemple, je trouve que ce serait le Lingala, le Wolof, tout ça. Par exemple, moi, je suis Diaranké, je ne pourrais pas le mettre parce qu'il n'y a pas...
beaucoup de personnes qui parlent.
Pourtant, si.
Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que, par exemple, le Lingala, il y en a beaucoup. Le Wolof, il y en a beaucoup.
Non, le Jaranke aussi, il y en a beaucoup.
Jaranke.
Tu vois, en Espagne, il y a des Jaranke qui sont là-bas. Tu pars en France, il y a des Jaranke. Tu pars aux États-Unis, il y a des Jaranke. Lingala, c'est la même chose.
Lingala, c'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent le Lingala. En Belgique, le Peul, par exemple, dans les transports en commun, ils mettent les annonces en Lingala. Ouais, pas tellement il y a de Congolais. S'il y avait ça en France.
De toute façon, Belgique, c'est la deuxième capitale des Congolais. De toute façon.
Oui, il y a beaucoup de Congolais là-bas. Bah, surtout là-bas, de RDC, du coup. Parce que nous, mon Congo, le Congo-Brazzaville, il s'est plus allié au bloc de l'Est, donc avec l'Union soviétique. Donc, ça se traduisait par exemple, mes grands-parents, ils sont allés faire leurs études supérieures en Biélorussie, en Tchécoslovaquie, ce genre de pays. Oui. Alors que les Congolais de Kinshasa, ils sont plus allés faire leurs études en France, en Belgique, ce genre de choses.
Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est en fait, c'était quelqu'un qui faisait une vidéo à New York et il parlait français, donc c'était un français d'Europe hein, qui était juste parti à New York. Et en fait, il a vu des Africains qui n'ont jamais mis un pied à l'Europe et qui sont en fait vivaient à New York, mais qui parlaient français en fait. Mmh. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'ils ont dit qu'en fait, le français, comme le Lingala, comme tu l'as dit, en fait, ils l'apprennent aussi en fait, d'une certaine manière. Ça dépend, je pense, quand même des pays. Ouais. Mais il y a certains pays où parler français, c'est courant en fait. C'est comme parler Lingala. Et du coup, il était à New York et en fait, il parlait français avec des gens qui n'ont jamais mis un pied en France.
Ouais,
c'est ça.
Et ouais, ça, c'est beau.
Ouais, je trouvais ça extraordinaire parce en fait, c'est. On voit quand même il y a une diffusion en fait de la langue partout en fait et
c'est ça,
je trouvais ça intéressant,
c'est ça qu'il faut en fait et puis le monde c'est beau, le monde c'est voilà, c'est tu vois le partage des cultures, des langues, il y a plein de choses qu'il faut faire, tu vois, et que voilà, et que de faire des différences entre noir, jaune, africain, pas on est ça fait plaisir de se mélanger et chacun apporte l'autre en plus en fait. C'est ça la beauté des choses.
Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je propose qu'on reste sur la beauté des choses et sur le fait que même si le mouvement panafricain prendra beaucoup de temps à s'instaurer durablement, je propose qu'on reste sur ça et qu'on se dise à bientôt.
Éphémère.
Flaubert Musique Radio.
La radio du lycée Flaubert à Rouen.
Flaubert Musique Radio.
Écoutez sur zonedonde.org et 102.8 FM.
Le vendredi 19 avril de 10h
à 16h.